Merci à tous et toutes d'être là pour ce débat conclusif des journées, des rencontres de Cluny. Dernière journée chahutée par l'actualité. On avait prévu un beau conclave de la gauche qui aurait tranquillement réfléchi à ce qu'elle pourrait imaginer d'une écologie qui redevienne triomphante, avec notamment la question des classes populaires qui est restée le fil rouge de ces trois jours de discussion, même si bien sûr on a traité de nombreux autres sujets. Bon, nos trois invités, nos trois chefs de parti, Olivier Faure, Marine Tondelier et Clémentine Autain, se sont désistés pour des raisons qu'on peut comprendre. C'est tout à fait sérieux ce qui se passe, malgré le côté farce. Et on a donc décidé de réorganiser. Dans un premier temps, on reste dans la discussion politique avec deux personnalités politiques qui ont accepté de venir maintenir cette discussion. Marcelin Nadeau, député de la Martinique. Et voilà. Alors, et le président de la région Bourgogne-Franche-Comté, Jérôme Durin. Donc, merci beaucoup d'être là également. Et on a demandé à Marine Tondelier et Clémentine Autain d'être présentes par l'image, non pas en visio, mais elles ont enregistré des petits clips, des petites interventions qui permettent de rester dans cette discussion nationale avec toute la charge et la gravité qu'elle porte, autour de trois questions dont on s'est dit que c'est une façon de reformuler le thème initial du débat, qui est: qu'est-ce qui est en train de se préparer, hein, qu'est-ce qui va nous arriver là, entre les jours, les semaines et les mois qui viennent, parce qu'évidemment on a tous l'impression que ça ne va pas dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on fait ? Question 2, qu'est-ce qu'on fait devant ce qui se prépare ? Comment on se prépare ? Comment on prépare la société ? Comment, en tant que politique, on prépare le collectif à ce qui semble poindre à l'horizon, à travers ces soubresauts ? Et la troisième question, puisqu'on est au rencontre de la pensée écologique de Cluny, quelle est la place de l'écologie dans cette préparation ? Donc, dans un premier temps, ces quatre voix de... en présentiel, deux enregistrés, vont répondre à ces trois questions. Et dans un deuxième temps, c'est vous qui prendrez la parole. On commence donc par Clémentine Autain, la première question. Mais qu'est-il donc en train de nous arriver ?
Il faut s'attendre à tous les scénarios parce que nous sommes dans un moment d'accélération de l'histoire. Et on le voit, la semaine que nous avons passée a été totalement folle. Le président de la République enfonce le pays dans la crise, dans une crise profonde, et on a un prétendu bloc central qui est en train d'imploser. Ce n'est plus un bloc, c'est une aiguille. Ce n'est pas un centre, c'est au fond un espace politique très à droite, avec un président de la République qui cherche par tous les moyens à maintenir les privilèges d'une petite caste dont il est le porte-drapeau, et il ne veut faire absolument aucun bouger. Donc, à partir du moment où il y a l'effondrement de cet espace, eh bien, tout les scénarios deviennent possibles, et la confrontation, elle est maintenant avec l'extrême droite. Et c'est pourquoi il faut être à la fois solide et rassembleur. Nous sommes face à une proposition politique néo-fasciste qui est portée par le trumpisme à l'échelle internationale. Et donc nous devons être là, présents, forts, pour imposer une alternative, une issue progressiste, sociale et écologiste à ce moment de temps extrêmement troublé et particulièrement dangereux.
Une proposition néo-fasciste. Donc j'ai posé... la question suivante à Clémentine Autain: que fait-on, comment se prépare-t-on à une telle perspective ? Louane.
On prépare la société à ce qui se prépare en unissant les forces de gauche et écologistes, en travaillant, en inventant, et c'est ça qui va entraîner la société. Et je veux mettre d'emblée en garde contre une forme de mélancolie de gauche qui se répand face au spectacle de la désunion qui est aujourd'hui donnée et le sentiment que, pour l'instant, et j'insiste sur le pour l'instant, la gauche ne serait pas capable de faire force commune. Donc là, il faut faire très attention parce que s'il faut toujours avoir le pessimisme de l'intelligence, je crois que nous avons besoin aujourd'hui de ne pas lâcher sur l'optimisme de la volonté. Et ce dont la société a besoin, c'est de voir grandir une issue de progrès humain. C'est ça qui va permettre que l'on ait un grand mouvement social, la mobilisation du peuple de gauche, parce que c'est cette perspective d'union, de victoire donc possible, tangible, qui va démultiplier la lutte. Et donc, je crois à la nécessité de l'union des gauches et des écologistes, à cette perspective, et ce qui peut unir, cimenter, à mon sens, c'est le rejet de la marchandisation de la société et la projection dans une société des communs, c'est-à-dire une société qui est capable de partager les richesses, de partager les ressources, de partager les pouvoirs, les savoirs et les temps de la vie. Ça, c'est ce qui, à mon sens, fait commun au sein des gauches et des écologistes.
Alors justement, quelle est la place de l'écologie dans cette remontada, dans cette façon de reprendre l'initiative, Clémentine Autain?
Moi, je suis convaincue que l'écologie est un moteur, en fait, puissant pour la gauche. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir le succès de la pétition pour la loi du plomb, ou le fait que la jeunesse est très engagée, en fait, sur ce terrain-là, ou aussi que beaucoup de citoyennes et des citoyens voient maintenant le déjà-là de la catastrophe sur leur santé ou en raison des catastrophes naturelles. Donc, la question qu'on a à se poser, c'est comment faire face à une forme de backlash qui existe et comment faire mieux. Alors, le backlash, pour moi, il est toujours de mise quand il y a une idée progressiste, émancipatrice qui s'impose dans la société. Donc, on a toujours un vent réactionnaire par rapport à ça. Néanmoins, on a à réfléchir sur nous-mêmes, sur comment faire mieux. Et de ce point de vue, ma conviction, c'est qu'il faut sortir l'écologie du un geste plus un geste et aussi de cette idée d'une leçon de mode de vie, en fait, de la critique des modes de vie où le mépris de classe n'est jamais très loin. Et donc, il faut une proposition qui touche à l'organisation de la société, c'est-à-dire des solutions qui soient collectives, qui soient structurelles et non pas renvoyant à des gestes individuels ou à des solutions individuelles. Donc ça me paraît absolument essentiel et que c'est là aussi que l'écologie n'apparaîtra pas comme contrevenant au plaisir, comme une contrainte en fait, mais au contraire comme une possibilité de vivre mieux et donc de jouir davantage de ces progrès amenés par la transition, la bifurcation plus exactement écologique. Donc je crois profondément à ça, qu'il faut qu'en sortant du consumérisme, en protégeant nos vies des agressions, des dangers liés à la destruction de l'environnement, en mangeant mieux, en se déplaçant plus facilement, en ayant plus de sens à son emploi, à son travail, eh bien, on est réussi ainsi à donner de l'air, à donner du sens à nos vies. Et c'est du mieux, et c'est joyeux, et c'est ça qui sera très entraînant.
Voilà, c'était Clémentine Autain, enregistrée ce matin. Merci beaucoup pour elle. Merci à Louane, parce que ça a été dans des conditions un peu acrobatiques. Alors, Marcelin Nadeau, vous êtes en quelque sorte notre candidat numéro 2. Avec ces trois questions dont vous avez le droit de vous écarter, évidemment, c'est la règle du jeu. Mais je pense quand même que l'inquiétude et les interrogations sont là et que c'est important de les traiter. Je vous passe la parole pour une dizaine de minutes.
Je ne suis pas candidat contre Clémentine Autain, quand même. Non,
non mais bon, participant à cette réflexion collective.
Je plaisante.
Par ailleurs, peut-être un jour, qui sait.
Non, dire que je suis venu, enfin, c'est là où mon bilan carbone est très mauvais, mais avec deux en plus de mes collaborateurs, ça s'est donc multiplié par trois. Donc Pascal Marguerite et Philippe Cléry qui m'accompagnent. Donc je tiens à remercier vraiment l'organisation de CUNY et notamment singulièrement des amis de longue date, Aline et Jacques Archambault, à chaque fois de me confier à cette réflexion, à ce forum ô combien nécessaire. Sans vouloir parler de moi, je vais essayer de me positionner pour voir comment je peux m'introduire dans ce débat, en fait, un peu pour partie, pas totalement. On a vu la dimension aussi de la question du trumpisme, de la montée des fascismes à l'échelle planétaire, mais qui peut être perçu comme franco-français lorsque moi je suis un souverainiste écologiste, bien sûr, martiniquais, mais néanmoins député français. C'est très compliqué. Donc moi je suis au groupe GDR, donc avec les communistes, un groupe qui rassemble à peu près 9 députés, huit députés des 10 Outre-mer, à la fois le Martiniquais que je suis, mais également les députés de la Guyane, les députés de la Réunion et une députée de Polynésie. Donc, sur la question, parce que je joue un positionnement très décolonial, il y a eu le débat, et je salue d'ailleurs Malcolm Ferdinand et les autres amis qui ont participé à cette table ronde d'hier. Donc notre groupe, c'est un groupe à la fois de communistes, mais aussi de députés progressistes des 10 Outre-mer. Donc évidemment, dans la réponse que je vais apporter aux trois questions, j'aurai ce positionnement un peu décolonial. Bon, on l'a compris, ce qui se passe aujourd'hui, bon, ça peut être... comique, mais je dirais que c'est tragicomique. On est devant une crise politique, une crise de régime, et qui est, on ne peut plus, inquiétante lorsque vous pensez bien que l'afro-descendant que je suis voit poindre pas très loin de nous la perspective de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Je pense qu'il y a de quoi être inquiet. Alors, bien évidemment, on sait bien que dans les jours qui viennent, hein, je ne vois pas comment ce gouvernement, le Cornu 2, pourrait tenir. À mon avis, même si on échappe à la dissolution aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, je pense qu'on n'y échappera pas dans les semaines qui viennent. Donc on va évidemment vers une dissolution. Maintenant, cette dissolution, on sait bien aussi que elle peut amener, c'est peut-être le meilleur scénario, une assemblée très fragmentée, une sorte de chambre introuvable, mais avec une répartition des forces à peu près, qui correspondrait à peu près à ce que c'est aujourd'hui. Mais le pire des pires, c'est bien évidemment une majorité absolue de l'extrême droite. Et ça, c'est une hypothèse qui n'est pas du tout exclue. Donc je crois que ce contexte-là est particulièrement grave. On a bien compris que le problème, c'était quand même Macron. Macron qui nous avait promis ni droite ni gauche. Macron qui avait dit lors de sa deuxième élection que ce vote l'obligeait. On a vu comment il est comment il a tendance, hein, parce qu'il répond, je pense, aux impératifs du grand capital, comme on disait à l'époque. Et il a tendance à plutôt pencher à droite et quelquefois même à l'extrême droite. Donc cette réalité, je peux la décrire à partir de la situation des 10 Outre-mer. À la fois sur la question de la vie chère. Lorsque vous avez un ministre comme Manuel Valls qui dit il y en a assez, il a été courageux de le dire, parce que jusqu'à présent, dans les gouvernements Macron, vous savez que Bernard Ayotte, ce grand patron béquet originaire de la Martinique, mais qui est positionné sur tous les territoires des Outre-mer, il m'a été dit que chaque mois, il rendait visite au ministre des 10 Outre-mer. Alors, il est évident que quand un ministre comme Valls dit « ça suffit, il y en a assez des monopoles et des oligopoles », c'est vrai que ça ne plaît pas du tout à ce type de personne. Mais vous avez bien remarqué, je ne sais pas si vous êtes au courant, que c'est en même temps de Macron, pendant que Valls stigmatisait en quelque part très justement le grand capital martiniquais béquet. Vous savez que Macron décorait Bernard Ayotte de la Légion d'honneur. C'est un signe fort. Bon, on l'a vu aussi en Nouvelle-Calédonie, Kanaki. On a vu quelle était leur politique, c'est-à-dire la négation des droits fondamentaux du peuple premier, qui est le peuple Kanak. Et on a vu où ça menait en termes de violence. On l'a vu également à Mayotte, comment justement... les macronistes, avec la droite, couraient après les revendications complètement xénophobes au niveau de Mayotte, etc. Donc je crois que on le voit bien, et j'attire votre attention sur les 10 Outre-mer comme un thermomètre du curseur en matière de volonté de transformation sociale et écologiste. On l'a vu lorsque la gauche française a rogné à une certaine époque quelques-unes de ses valeurs sur le plan social, sur le plan de l'écologie, en sombrant de ses orientations sociales libérales. Elle n'a pas été plus claire concernant les 10 Outre-mer, puisqu'il y a eu également des renoncements, notamment sur la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et là, on le voit encore, les Outre-mer sont un indicateur, et je vois très tôt, par exemple, on a connu quand même une mouvance écologiste assez forte, et qui a été très sévèrement réprimé, comme le mouvement ouvrier a été réprimé, et les moyens de la répression, j'ai eu l'occasion de le dire, par exemple, l'utilisation de blindés par la gendarmerie nationale, c'est des choses qui ont été expérimentées chez nous et qu'on a retrouvées après, notamment à Sainte-Solène, etc. Je pense que il faut vraiment que vous ayez confiance, en conscience en tant que militant écologiste, militant de gauche, de la nécessité de ne pas faire en sorte que la question des Outre-mer demeure encore et encore une sorte d'impensé. Donc vous voyez, cette situation est inquiétante pour nous en tant que femmes et hommes de progrès, citoyens du monde de progrès, mais elle est encore plus inquiétante pour nous, afro-descendants venant de ces pays où, paradoxalement, c'est vrai, il ne faut pas le nier, l'extrême droite fait des scores très importants, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Guyane, que ce soit à Mayotte, que ce soit à La Réunion et que ce soit en Martinique. Donc le combat de la lutte contre le fascisme, il nous concerne parce qu'au fond, ce qui alimente aussi la montée de l'extrême droite chez nous, c'est parce qu'une partie de nos peuples intègre aussi les valeurs xénophobes dans la volonté de rejeter, et ce qui est paradoxal encore, des gens qui sont très proches d'eux. Quand un Mahorais rejette un Comorien, alors qu'un Mahorais, un Comorien, c'est quoi la différence? Quand un Martinique et un Guadeloupéen rejettent un Haïtien, c'est quoi fondamentalement? Nous avons le même passé, la même histoire, etc. Mais n'empêche que la xénophobie est tellement puissante, et ça explique que l'extrême droite française, qui est fondamentalement raciste, j'en suis fondamentalement convaincu, surfe justement, joue, manipule les opinions publiques de pays puceaux relevant de ce qu'on pourrait appeler la diversité, afro-descendants, indo-descendants, etc., et arrive justement à s'implanter quand même de façon dangereuse dans nos pays. Ça, c'est pour la première question.
La deuxième question, c'est comment ce que ça dessine, ce que vous dessinez à travers ce thermomètre des Outre-mer, la formule est très parlante, et nous renvoie un miroir très, très, très inquiétant. Comment on se prépare, comment les politiques, comment la gauche politique se prépare et nous prépare à ça?
Oui, moi je crois que je vais crier pour 4, pour 10, pour 20. Il y a 3 solutions. L'unité de la gauche et des écologistes, l'unité de la gauche et des écologistes, et l'unité de la gauche et des écologistes. Je crois que nous, alors, il y a la position du Parti communiste que je ne peux pas représenter, je ne suis pas communiste moi-même, et vous avez vu qu'il y a eu quand même des petites frictions entre ce qui était la position du Parti communiste, sa direction, et ce qui était la position du groupe GDR. Dans notre groupe, donc, qui est co-présidé à la fois par Stéphane Peu, qui est député de la Seine-Saint-Denis, et par Emeline Kabidi, qui est une députée de la Réunion, nous disons très clairement que, quoi que fasse l'EPC, nous irons à toutes les réunions envisageant la perspective d'une unité de gauche, mais sans exclusion de qui que ce soit. Quand on parle de rassembler la gauche, c'est toute la gauche, sans exclusif, et pour nous, c'est fondamental. Et ça, nous l'avons dit et nous l'avons répété. Après, je crois aussi qu'il faut, parce qu'on parlait aussi des classes moyennes et populaires, que vous ayez confiance aussi d'une mutation profonde de la notion de classe moyenne et populaire qui... des catégories qui ont été inévitablement travaillées par la question coloniale et la question, bien sûr, liée à la question coloniale, la question migratoire. Vous savez, dans les années 30, au moment des 30 Glorieuses, il manquait de main-d'œuvre en France et on a fait venir, vous savez, des migrants de pays qui étaient indépendants. pour travailler dans les usines. Mais parallèlement, il ne faut jamais oublier qu'on a fait également venir, notamment par le biais d'un organisme qui s'appelait le BUMIDOM, le Bureau de Migration des DOM, des originaires des DOM pour occuper des postes que les autres étrangers, je veux dire, ne pouvaient pas occuper, pas étrangers juridiquement, mais ne pouvaient pas occuper par rapport à la clause de nationalité. C'est pour ça que vous avez rencontré beaucoup d'Antillais, de Réunionnais, de Guyanais, à la poste, dans les hôpitaux, de tout ça. Donc, en fait, tout ce que les autres étrangers ne pouvaient pas faire, on nous a vu venir. Donc, c'était à ce moment-là. Et on ne peut pas me dire aujourd'hui que ça n'a pas travaillé la catégorie que seraient les classes moyennes et populaires en France. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à dire, comme Jean-Luc Mélenchon, que la société française est en voie de créolisation. Moi, je ne suis pas philosophe, je laisse cette question philosophe, mais je pense que le tout monde de glissant, tel qu'il est porté par Chamoiseau, doit interroger effectivement la notion de catégorie populaire. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la gauche française doit prendre en compte les conséquences des réalités, de la réalité coloniale du passé français, que ce soit à travers les migrations, mais également à travers la réalité de ce que sont les Outre-mer aujourd'hui. Et pour, comme on n'a pas beaucoup de temps, puisque l'animateur m'a rappelé ça, je vais résumer toute ma pensée à travers un slogan, c'est-à-dire que le contrat écologiste et social sera décolonial ou il ne sera pas. S'il n'y a pas effectivement cette approche décoloniale, mais ça a été expliqué hier, la notion de colonialité, c'est pas seulement la relation de la France avec ses actuels 10 outre-mer, mais c'est la relation de la France avec le sud global. Et je crois qu'il faut absolument que nous ayons conscience de ça. Et je m'attacherai, ça a été dit ici, c'est pour ça qu'on apprend beaucoup de choses à Cluny, et je vous encourage à revenir constamment. C'est Patrick Vivray, qui, à l'instar d'Edgar Morin, a dit l'année dernière qu'il se positionnait pour une géopolitique humaniste et écologiste. Alors, c'est peut-être une utopie, mais comme dirait Aimé Césaire, je souhaite que ça soit une utopie refondatrice. Êtes-vous prêt à considérer qu'il faut sortir de la logique des puissances, des rivalités Chine, États-Unis, Europe, etc., pour qu'à partir du socle, notamment des idées des Lumières, bâtir d'autres valeurs autour des questions des relations internationales. Sortir de l'idée, parce qu'on l'a vu aussi, des ambiguïtés. C'est-à-dire que quand des gens de gauche, même de la gauche la plus radicale, s'agissant de la relation aux 10 Outre-mer, nous parlent de rayonnement de la France, je voudrais bien que la France rayonne, mais pas à travers la puissance économique de la France ou militaire de la France, mais qu'elle rayonne peut-être à travers l'idée de rebâtir un autre socle de valeurs basé justement sur ces idées de fraternité et de respect du droit à l'autodétermination des peuples. Et c'est une illusion qu'avait commencé à donner Mitterrand à l'époque dans son fameux discours de Cancun, mais on a vu après ce qu'il a devenu, cette persistance. Et d'ailleurs, quand on fait une analyse, y compris lorsque le Parti communiste a pris cette orientation stalinienne, puisqu'il y avait une volonté aussi des staliniens de ne pas sortir de cette logique des blocs et de puissance. Et je vous invite vraiment, et je le dis à mes amis communistes, à revisiter. Il y a deux figures pour moi qui sont fondamentales dans cette relation colonie et volonté de l'aspiration à la transformation sociale. C'est Louise Michel en Kanaki. Elle est plus connue, cette figure-là, mais c'est aussi Lamine Senghor, dont on a oublié. C'était qui Lamine Senghor ? C'était ce militant sénégalais qui était militant du mouvement ouvrier français, militant antiraciste, qui se battait aux côtés de ses camarades ouvriers français pour la transformation sociale en France, mais qui n'avait pas oublié la nécessité de se battre aussi pour l'émancipation nationale de son peuple, qui était le peuple sénégalais. Vous voyez ? on a besoin aussi de ce type de symbole, on a besoin de ce type de figure pour rebâtir une approche nouvelle, justement, de la gauche française et des écologistes par rapport à la question de la colonialité. Je crois que ça me paraît fondamental et essentiel. Alors, pour finir, quelle est la place de l'écologie dans tout ça ?
Alors, je pose la troisième question.
Mon discours, il est fondamentalement écologiste. Je suis un écologiste convaincu. Alors, tout à l'heure, ça a été dit que, par le crieur, mon ami le crieur, que mon bilan carbone était mauvais. Mais en fait, ce n'est pas la première fois que je viens ici, je viens tout le temps. Parce que je suis un député de la Martinique à l'Assemblée nationale française. Et en fait, on peut dire que le bilan carbone de la colonialité, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, est très, très mauvais. Donc, ça explique que je sois très, très écologiste. Donc, après, bien évidemment, la question de l'écologie, et bon, je vais finir dessus. Quand on a aujourd'hui, et c'est ça en fait, sur la question des classes moyennes aussi, chez nous, il y a ces contradictions. Ça a été dit hier lors du débat sur la question de la colonialité. Dans les 10 Outre-mer, comme dans les anciennes colonies, les classes moyennes sont attachées au modèle actuel de croissance, de dépendance aux énergies fossiles, de mondialisation néolibérale telle qu'elle est. Et chez nous... On n'échappe pas à la règle. Et il y a la situation, quand on parle des Outre-mer, on en parle de manière générique. Bon, il y a effectivement des îles. Et puis, il y a la Guyane. J'ai souvent des discussions avec nos amis guyanais parce qu'ils disent, mais nous, on veut explorer les possibilités d'exploitation du pétrole, on veut exploiter nos mines d'or, etc. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas pourquoi eux, en termes, parce qu'ils doivent rattraper le retard pris, parce que c'est vrai qu'il y a d'énormes problèmes d'enclavement, de services publics, etc. en Guyane, ils se disent, mais nous, on a le droit à accéder à ce modèle de consommation ou de production que l'Occident et la France singulièrement a connu. Ce qui vaut pour la Guyane vaut également pour les anciennes colonies. Et finir sur la question du ZAN, par exemple, le zéro artificialisation net. Moi, j'ai fait partie, je serai peut-être un des trois députés pour lutter contre l'offensive du Sénat sur cette question pour qu'on maintienne le cap s'agissant du zéro artificialisation net. Eh bien, chez nous, vous voyez, quand vous prenez la loi, elle a été assouplie dans les objectifs, notamment des étapes intermédiaires, se disant que oui, parce que des élus sont montés au créneau pour dire, ouais, il faut qu'on ait accès au développement, pas question. Alors, la Guyane, peut-être, mais quand on prend des îles comme le Martinique, aux écosystèmes fragiles, des petits aux dimensions modestes, c'est une catastrophe de ne pas appliquer le ZAN dans nos pays insulaires. Et je le dis, c'est une catastrophe et on va au-devant, parce que quand on voit, je parlais d'ailleurs, quand on va construire des hypermarchés dans une mangrove, alors qu'on connaît les vertus de la mangrove, vertus écosystémiques, vertus en termes de protection des populations, etc., moi je crois que justement c'est scandaleux. Et pour finir, pour dire que l'existence même, la survivance de nos peuples et de nos pays sera écologiste ou on rompt avec le système productiviste, le système néolibéral, où nous périssons. C'est pour ça que nous fondons beaucoup d'espoir dans cette union de la gauche en France, parce que nous avons parti lié. Et comme disait mon ami Pré, qui était d'ailleurs de mon groupe, mon ami polynésien, président du gouvernement de Polynésie, Motai Brusserson, à travers sa relation à ses outre-mer, ses 10 outre-mer, la France a la possibilité là. S'il y a une gauche et des écologistes vraiment animés des valeurs que j'évoquais tout à l'heure, de transformer ces relations, de sortir des relations de domination pour construire des relations de fraternité répondant à l'aspiration de peuples voulant s'émanciper. Et ce laboratoire, vous avez le laboratoire négatif, répressif, j'ai parlé tout à l'heure des fameux blindés de la gendarmerie, eh bien nous passerions d'un laboratoire, je sais que Malcolm n'est pas tellement le terme, mais je l'utilise quand même, nous passerions d'une forme de laboratoire avec des négativités à un laboratoire positif. Et je le répète encore, le projet que nous devons absolument porter, qui est fondamentalement écologiste, mais qui c'est la transition écologique juste, donc qui est aussi un projet de justice sociale et de décolonialité, Eh bien, je le dis, je le répète et je conclurai par là. Merci, monsieur l'animateur. Il sera décolonial ou il ne sera pas. Merci de votre attention.
Merci, merci Marcelin Nadeau pour cette force et ces ouvertures très, très nettes et qui nous mettent au travail. Troisième intervention, ça va être Marine Tondelier et je vais découvrir avec vous sa réponse parce que je crois que c'est d'un seul bloc et je n'aurai pas besoin de faire les relances. C'est à vous, c'est à toi.
Bonjour à toutes et tous, ici Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes. Et bah, comme vous le constatez, malheureusement, je ne peux pas être parmi vous. Les responsables s'appellent Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais vous connaissez le nom de leurs camarades. Et voilà, par le Santa Barbara 2025 auquel ils nous ont fait assister toute la semaine, ils m'ont empêché d'être parmi vous parce que, voilà, chaque fois que j'essayais de prendre le train pour vous rejoindre, je devais pour la première fois, parce que je suis toujours venue avec lui, mais là pour la première fois je devais venir tout l'événement, pouvoir me détendre, échanger avec vous, assister à un maximum d'ateliers, voilà, m'inspirer, revenir avec plein d'idées, et là paf, voilà, le psychodrame de l'année, et qui à mon avis d'ailleurs n'est pas terminé, et donc j'ai pas pu tout simplement décoller du siège des Verts, à part pour aller sur des plateaux ou à l'Élysée dans cette fabuleuse réunion où j'ai pu constater à quel point on se fichait de nous. Alors, je me retrouve du coup en visio et j'en suis sincèrement désolée parce que je me faisais vraiment une joie de vous retrouver. Et je sais que c'est toujours mieux en vrai, mais je vais essayer de mettre toute mon énergie pour que cette vidéo soit pas trop longue à regarder. Et donc, je vais surtout répondre aux questions que Jacques Archimbaud m'a écrites, car j'obéis toujours à Jacques Archimbaud. La première question, c'est à quoi faut-il se préparer? La deuxième question, c'est comment on prépare la société à ceux qui se préparent? Et la troisième question, c'est comment on remet l'écologie comme facteur de rassemblement? Et bah tiens, je vais commencer par celle-là, c'est mon côté disruptif, je prends les questions dans le désordre, Jacques, j'espère que tu m'en voudras pas. Peut-être commencer par vous dire que l'écologie, quand on dit écologie, chez plein de monde, les gens peuvent penser effondrement de la biodiversité, fin du monde, de l'humanité, du climat, catastrophe naturelle, enfin plein de trucs horribles, maladies environnementales. Et je pense que nous-mêmes, on est tellement voilà dans ce côté lanceur d'alerte et dans une réalité sur laquelle on essaye de voilà d'interpeller les gens que on véhicule beaucoup ce côté-là et pas assez à mon sens le côté écologie de la joie quoi, parce que l'écologie à la base c'est voilà, vous savez la science qui étudie les interdépendances, les écosystèmes. Et donc, l'écologie, c'est aussi l'infini des relations. C'est aussi l'infini du lien et toute la richesse qui peut en découler, l'infini des solutions. Et je pense que ça, on doit le mettre plus en avant. Et vous voyez bien qu'il y a une adéquation du fond et de la forme, puisque ce qu'on est censé représenter pour la société en tant que force politique, on essaye aussi de l'incarner entre les forces politiques et d'être un vecteur de lien. J'ai passé encore le week-end à échanger avec des socialistes, avec des insoumis, avec des écologistes, évidemment, quand même, ne les oublions pas. Mais bon, c'est pas le plus compliqué en ce moment. Et c'est vrai qu'on se rend compte à quel point les gens sont rentrés dans une forme d'incommunicabilité à gauche. On est tombé dans ce piège-là et c'est désespérant parce que notre capacité à travailler ensemble, de là va dépendre à la fois des résultats électoraux positifs ou pas pour la gauche, mais du coup de là va dépendre aussi l'avenir de notre pays. Je le dis beaucoup en ce moment, on est dans un moment de bascule fasciste au niveau mondial et donc les États basculent dans l'extrême droite comme des dominos qui s'entraîneraient les uns dans la chute des autres. C'est là où on en est. Et dans ce moment-là, il faut quand même se dire avec beaucoup de solennité et de gravité que la France est l'un des prochains dominos qui pourrait basculer. Une fois qu'on s'est dit là, ça fait peur. Et en plus, on sait que s'il y a une dissolution, une démission du président ou je ne sais quoi, ça peut être très très rapide. Et même si c'est en 2027, ça va arriver très vite. Et c'est, je pense, moi qui pour le coup, en plus, suis élue d'opposition au Rassemblement National et à Beaumont, l'un des combats les plus durs que l'on va avoir à mener. Et aujourd'hui, on est dans une situation où les insoumis nous expliquent qu'il faut qu'on vienne avec eux contre le Parti Socialiste et le Parti Socialiste qu'il faut qu'on aille avec eux contre la France Insoumise. Et enfin, il y a sûrement des gens dans la salle qui pensent qu'on devrait faire l'un ou l'autre. Mais vous voyez bien que dans ce match, par exemple, qui s'annonce pour la présidentielle entre Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Guzman, ce match à gauche, on nous explique à longueur de semaine que ce sera l'un ou l'autre. Mais à force de dire que ce sera l'un ou l'autre, ce sera ni l'un ni l'autre. Et c'est ça la vraie difficulté. Donc on a voilà ce moment d'un peu de panique générale, je pense qu'il crée beaucoup de désespérance en plus dans nos électorats qu'on avait réussi à enthousiasmer, quoi, emballer l'été dernier. Plus dur a été la chute. et qui à la fois se voit privé de Matignon pour la quatrième fois, donc c'est quand même assez désarmant, mais en plus doivent avoir la sensation, et à juste titre, que s'il y avait une dissolution là tout de suite, on serait même pas capable de se remettre ensemble et d'avoir les résultats de la fois dernière. Donc tout ça est compliqué, et je pense que on peut se dire que le RN, ils sont fascistes et qu'il faut les combattre jusqu'à notre dernier souffle. C'est personnellement ce que je m'engage à faire. On peut se dire que les macronistes sont horribles et sont dans un déni de démocratie et ont creusé les inégalités comme jamais, sont dans l'inaction climatique et même, disons-le. Mais on ne peut pas être dur comme ça envers le RN, être dur envers les macronistes et ne pas être exigeant envers nous-mêmes. Et je pense qu'en ce moment, on n'est pas assez exigeant envers nous-mêmes. Et je ne le dis pas juste moi aux autres ou moi aux écologistes, je le dis à toute la gauche. Le spectacle que l'on offre collectivement n'est pas bon. Moi, j'ai vu à quel point, vous savez, quand on a été invité à l'Élysée, donc c'était vendredi, on a décidé d'arriver ensemble avec Olivier Faure, avec Fabien Roussel et puis avec les présidents de groupes parlementaires, Stéphane Peu, Cyril Châtelain et Boris Vallaud. Désolée, je suis malade. Depuis la fête de l'humanité, très précisément. Et donc, quand on est arrivé ensemble à l'Élysée, par rapport à tous ces macronistes qui arrivaient séparés, j'ai vu à quel point ça avait eu une résonance aussi, parce que toute l'après-midi, cette image est passée. Et moi, j'ai eu beaucoup de messages de gens qui disaient « Écoutez, on ne sait pas ce qui se passe dans cette réunion. Ça se passe sûrement très, très mal. Mais on vous a vu arriver ensemble et ça nous a fait du bien. » Voilà. Donc, je pense que dans un moment où le moral des troupes va être très important, se faire du bien, envoyer des images positives qui rassurent un peu nos électorats, qui se demandent est-ce qu'ils vont encore être capables de nous défendre, eh bien, c'est important. Et je dis ça en ayant vu certains insoumis me dire « Cette image était horrible, il fallait surtout pas faire ça, quel terrible symbole de d'avoir l'impression que vous êtes ensemble alors que vous serez pas d'accord peut-être les socialistes sur la censure. » Et en fait, peut-être que le public cible des insoumis pense ça. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de bons retours. Et je vous explique ça aussi pour vous dire qu'il faut être assez tranquille sur le fait que les communistes, les insoumis, les socialistes, les écologistes, en fait, parlent à des publics très différents, à des publics cibles et à des électorats cibles très différents. Et j'en reviens à mon écologie et à ma science des écosystèmes. En fait, les écologistes savent que les écosystèmes ne sont riches que de leur diversité. Et donc, c'est pas grave. Et ben voilà, en plus, c'est le complot jusqu'au bout. Maintenant, c'est mon téléphone qui tombe en rade et donc je reprends la vidéo sur mon ordinateur. Désolée pour la coupure impromptue. Je vous disais donc que les écologistes savent que les écosystèmes sont riches de leur diversité et que, du coup, la biodiversité est une bonne chose. C'est pas grave qu'on soit pas tous pareils dans la gauche et les écolos, que les insoumis soient insoumis, que les socialistes soient socialistes, que les communistes soient communistes et que les écologistes, comptez sur nous, soient écologistes. Le but n'est pas qu'on devienne tous pareils. On parle à des publics si différents et c'est très bien comme ça. L'essentiel, c'est quand même d'être, pour le coup, coordonné, en symbiose, on dirait, pour continuer la métaphore filée, et de pas passer, comme je le vois parfois, plus d'énergie à taper sur d'autres copains de gauche que sur ceux d'en face qu'on est censé combattre. On a sûrement parfois des raisons de le faire, mais attention à la proportion que ça prend. Et j'en arrive à un deuxième concept écolo que j'aime bien détailler aussi, c'est le concept de l'efficacité énergétique. Et quand je parle d'efficacité énergétique, je vais vous parler en fait de notre militantisme, du fait que, quand je vous ai parlé des dominos de la bascule fasciste, chaque jour qui nous sépare de cette bascule fasciste et chaque heure de chacune de ces journées, on doit les passer, voilà, être très efficace dans notre militantisme, parce que vous êtes sûrement représentatif des militants de France ou des personnes qui pensent l'écologie que ça intéresse dans ce pays. Bon, il y a des gens qui passent une heure par mois, certains une par semaine, d'autres toute la journée. Chacun fait comme il peut entre sa famille, son travail, ses passions, etc. et son sommeil, ce qui est un truc auquel je n'ai pas eu assez accès cette semaine, donc je sais que c'est important, parce que j'en manque. Mais vous voyez, même moi qui, de par mes fonctions, y passe l'essentiel de mon temps, j'ai maintenant du temps incompressible de sommeil, je peux pas faire moins, et du temps incompressible de famille auquel je tiens, mais sinon c'est quand même l'essentiel de mes journées. Bon, bah une fois que je vous ai dit ça, vous voyez bien que si on me dit bah faut faire encore plus, en fait je peux pas. Je peux pas dormir moins, et je peux pas voir moins ma famille. Et donc, ça veut dire que si je veux être faire plus de choses, en fait, je peux pas avoir plus de temps. Donc la question devient l'allocation, en fait, c'est de maximisation sous contrainte pour ceux qui ont fait de l'économie. Donc c'est à quoi j'alloue mon temps militant. Et si je l'alloue à toute la journée à essayer de résoudre des problèmes au sein de la gauche plutôt qu'à essayer de combattre les fachos ou de battre les macronistes, eh ben, on a quand même un petit problème. Donc ça, vous voyez, c'est des réflexions écologistes, des concepts écologistes que je vous confie en les appliquant à ce qu'on devrait faire pour gagner en 2027. Et vous voyez bien qu'il y a du chemin pour, voilà, pour mener ce combat du mieux qu'on pourra. On a un objectif de résultat, évidemment, pas juste de moyens. Mais si on n'emploie pas les bons moyens ou si on ne les emploie pas correctement, on risque pas d'y arriver. Et donc, j'en viens à la question de à quoi faut-il se préparer. Et on le voit bien, je l'ai dit plusieurs fois cette semaine, dont en sortant de l'Élysée, tout ça peut très mal se terminer. Très, très mal se terminer. Moi, je revendique qu'il faut qu'on porte une écologie qui tende la main, aussi parce que je vois à quel point en ce moment les gens ont peur de tout, mais parce que c'est pas eux le problème, c'est que tout ça est terrifiant. Et donc, si en plus nous on arrive comme des oiseaux de malheur à dire « et ça, ça va pas aller, et à chaque fois que tu fais ça, tu tues la planète ben », c'est assez terrible. Donc on doit apprendre une écologie qui tend la main, c'est-à-dire réconcilier les gens avec l'écologie, en leur montrant par exemple que dans le budget de l'État, toutes les aides qui ont été sabrées, étaient, sur l'écologie, hein, des aides directes aux Français pour isoler leur logement, pour, par exemple, pouvoir changer de voiture. C'est-à-dire des aides qui vous aidaient à avoir un comportement qui, après, vous fait économiser de l'argent tous les mois. Et ça, c'est, je pense, une bonne manière de montrer que quand l'écologie perd, à la fin, tout le monde perd sur la loi du plomb. C'est pas juste lobby 1, écologiste 0, allez, les écologistes ont perdu. Quand l'écologie perd, tout le monde perd, et notamment la qualité de l'eau que vous buvez, la qualité de l'air que vous respirez, la qualité de ce que vous mangez, et donc à la fin, bah voilà, notre santé, quoi. Donc c'est un truc qui est vraiment terrifiant, et il faut se préparer voilà, à ce que l'écologie continue d'être attaquée, parce que elle est un obstacle sur le chemin de certains pour accumuler de plus en plus. C'est l'extractivisme, donc ils accumulent voilà, ce qu'ils extraient et ce qu'ils volent à notre planète, en exploitant souvent, outre les ressources naturelles, des hommes, des femmes et des enfants, mais ils accumulent aussi beaucoup de richesses, donc il faudrait surtout pas d'ailleurs les priver. Moi, il y a un truc quand même qui m'hallucine sur l'histoire de la taxe Zucman. Vous savez que les écologistes, avec Clémentine Autain et avec Eva Sas, ont fait adopter à l'Assemblée nationale, c'est que j'entends les gens dire « Oh là là, mais si on fait ça, les pauvres, les riches, comment ils vont faire? Comment ils vont le prendre? Est-ce qu'ils vont être d'accord? Comment ils vont se sentir? Est-ce qu'ils vont pas avoir envie de partir? Est-ce que ça leur convient ?» Et les gens qui vous disent ça, des éditorialistes et des politiques, je ne les ai pas entendus pendant la dernière réforme abjecte de l'assurance chômage ou pendant la réforme, vous savez, où ils ont diminué de 5 euros par mois les APL, les aides logement. Je ne les ai pas vus dire « Oh là là, mais les chômeurs ou les bénéficiaires des aides logement, mais comment ils vont le prendre? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'on les a consultés? Comment ils vont se sentir? Est-ce qu'ils vont pas se sentir mal aimés? C'est comme un problème, on leur a pas demandé leur avis. C'est quand même... Et je pense que ça, il faut s'y préparer. C'est-à-dire qu'il y a un moment où plus c'est gros, plus ça passe. Vous voyez, même Jean Pisani-Ferry, qui a quand même écrit le programme économique de 2017 d'Emmanuel Macron, dit maintenant « Sa politique de l'offre, c'était un pari, ça n'a pas marché. » Et donc, ça aurait pu marcher, mais en fait, non. On voit bien que cette histoire, voilà, cette présomption de crédibilité dont ils ont bénéficié, qui leur a permis de dérouler à plein tube, avec le soutien de beaucoup de monde, en se prétendant être des Mozart de la finance, tout ça, c'est terminé. Et donc, en réalité, soit on arrive à expliquer que maintenant, ce qu'il faudrait, c'est plutôt que des Mozart de la finance, des Mozart de l'empathie, c'est un sujet dont je parle beaucoup, hop, dans mon livre « Demain, si tout va bien ». Je pense qu'il y a des sujets qu'on doit réhabiliter en politique, hein. La tendresse par exemple, l'attention portée aux autres, l'empathie, qui sont des notions qui ont l'air d'être mal vues en politique alors que ça devrait être la base. Je pense qu'il faut qu'on arrive à mettre des sujets comme ça sur la table. Je parle aussi beaucoup dans ce livre de la solitude par exemple. La solitude, c'est un Français sur quatre qui en souffre, il y a 750 000 personnes âgées, si on prend juste les personnes âgées, dans ce pays qui sont en situation de mort sociale. De mort sociale, ce mot est terrible, mais en même temps il veut dire beaucoup. Et on se rend compte, en plus, que la solitude, c'est pas juste de la tristesse ou quelque chose qui est pas chouette, quoi. C'est un vrai problème de santé publique. C'est l'équivalent sur la santé, en impact physique et psychique, de 15 cigarettes par jour. Et donc, vous voyez bien que c'est un problème de santé publique à part entière qui, dans plein de pays, est pris en charge. Il y a des ministères de la solitude au Royaume-Uni, au Japon, en France, pas du tout. Il y a aussi un sujet territorial. Vous voyez bien qu'on a la sensation, dans ce pays, que si on n'est pas né à Paris, notre voix... Notre avis compte moins que si on était né à Paris. Et c'est pas seulement un avis, en fait. C'est très vrai. Moi, qui suis née dans le bassin minier du Pas-de-Calais, je l'ai toujours ressenti et constaté. Et je sais que c'est un point commun que j'ai avec des gens qui vivent en quartier populaire, avec des gens qui vivent dans les ruralités ou qui vivent à la montagne ou sur le littoral ou en outre-mer. Je sais que vous parlez souvent à Cluny avec mon ami Marcelin Ladeau des territoires dits d'outre-mer. Et on voit bien que dans tous ces territoires, on a des spécificités qui sont rarement adressées en fait dans le débat politique. Donc vous voyez, j'essaye de trouver des sujets dont je trouve qu'ils devraient être... Je parle aussi des enfants, j'en ai oublié un sujet, donc des enfants. Il y a un chapitre qui s'appelle « Quels enfants laisserons-nous à la planète ?» On parle beaucoup de la planète qu'on laissera à nos enfants, mais moi j'aimerais bien qu'on s'intéresse aux enfants qu'on laissera à notre planète. Et vous voyez tous ces sujets, l'ASE par exemple, c'est terrible, mais les enfants, c'est pas que l'ASE, c'est aussi avoir des politiques publiques qui soient bienveillantes avec les enfants, ce qu'on a du mal à faire en France. On le fait dans nos villes écolos, on dit les villes, on va faire des villes à hauteur d'enfants, en partant du principe d'ailleurs que les enfants posent des questions très justes qu'on se pose pas forcément comme adultes, et que les villes qui sont bien pour les enfants, bienveillantes pour les enfants, en fait sont bienveillantes pour tout le monde. Bah voyons, on pourrait faire un pays à hauteur d'enfants. Et on aurait au moins avancé sur beaucoup de politiques publiques, je pense, si on partait de ce présupposé-là, au lieu de faire Parcoursup, une ASE catastrophique, et puis des résultats en termes de protection de l'enfance, pas juste les enfants concernés par l'ASE, mais tous les enfants qui sont catastrophiques. Et je vous passe Bétaram, qui a été vraiment une honte de cette année, dont, à la fois de ce qui s'est passé à l'époque, mais comment ça a été appréhendé par la classe politique et par le Premier ministre récemment. Donc vous voyez, là, je vous cite des sujets qui depuis longtemps me tiennent à cœur, qui pour moi sont primordiaux, qui ne sont très peu sur la table en fait du débat politique, du débat public, et qui concernent tellement plus de monde que ce que je vois passer toute la journée à la télé, que je ne comprends pas pourquoi on s'en empare pas. Et je pense que quand on dit comment on prépare la société à ce qui se prépare, là je pense qu'on doit, avant de dire à la société « bon, préparez-vous, il va se passer ça et ça », il faut que nous aussi, on puisse adresser des messages à la société qu'on a compris, en fait. Que, comme c'est très rare en politique, mais normalement, quand on rate quelque chose en politique, on se remet en question et on avance et on a du mal à faire en politique. Donc, à quoi faut-il se préparer? J'ai envie de vous dire, au pire, vu ce que je vois ces derniers jours, que ce soit une démission, enfin un départ du président de la République ou une censure et derrière une dissolution, puisqu'aux dernières nouvelles, mais ça peut encore changer 4 fois cette nuit, puisque l'actualité est très, très à rebondissement en ce moment. Bah voilà, on peut repartir en élection très vite. Ou peut-être pas. Peut-être que le Parti Socialiste a tellement envie d'éviter tout ça qu'ils trouveront des moyens de ne pas avoir à censurer et que... J'avais oublié son nom, celui-là, il change tellement les prémices. Sébastien Lecornu. Et que Sébastien Lecornu, leur donnera suffisamment pour qu'il n'ait pas à censurer en n'ayant pas trop à baisser la tête non plus. Bon. Ok, mais peut-être qu'on sera en élection, peut-être pas. En tout cas, en 2027, le pire n'est pas exclu, il faut vraiment s'y préparer. Le meilleur non plus, il faut se battre pour ça. Mais je voulais vous dire que si le pire arrivait, moi qui vis dans une ville de Rassemblement National, je ne vois, je pense, qu'un centième de ce qui nous attend, parce que c'est une ville de 27 000 habitants. Et donc, par exemple, il y a des employés municipaux qui supportaient pas, ils ont travaillé dans la ville d'à côté. Bon, il y a les aides de la région, du département, enfin, on équilibre un petit peu les choses. Si c'était le pays, ce serait quand même autre chose, on le sait, et je pense que celles et ceux qui ne voient pas trop le problème, qui peuvent se dire bon, pourquoi pas, c'est pas si grave que ça, sont des privilégiés, parce que si vous êtes racisé, binational, ou vous avez de la famille concernée, si vous êtes LGBT, si vous êtes une femme, si vous êtes fonctionnaire, si vous êtes défenseur des droits humains ou des droits de l'environnement, je pense que vous voyez ce qui peut changer. Je parle des écolos, même après 43 reculs environnementaux depuis le début de l'année, en fait, vous savez que c'était terrible et qu'on continuera à se battre pour le dénoncer, mais que si c'était le RN, ce serait bien pire. Et ça, il faut se préparer à ça aussi. Moi, j'en parlais avec Cécile Duflo la fois dernière, qui est présidente d'Oxfam, vous le savez, enfin, pas présidente, pardon, directrice déléguée générale, et qui discute dans le réseau Oxfam avec des sections Oxfam de pays qui ont basculé. Et parfois, des pays qui ont basculé et qui ont rebasculé après du bon côté de la force, et donc qui peuvent témoigner aussi de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Par exemple, se concerter entre les associations, on va dire, du camp progressiste, ou je dis associations, mais ça peut être d'autres structures, en tout cas des structures progressistes, pour lister qui est propriétaire de son local. Et donc qui pourra accueillir celles et ceux qui ne le sont pas et qui pourraient être mis dehors ou qui n'auraient plus les subventions pour payer un loyer. Ça veut dire comment on protège nos fichiers militants. Si à un moment, on voit, c'est arrivé avec Bruno Retailleau avec ses prédécesseurs, mais si tout d'un coup, des associations sont dissoutes ou d'autres sont interdites ou ça devient répréhensible d'être militant dans tel syndicat ou dans tel assaut écolo, ça, c'est des choses auxquelles il faut se préparer très concrètement. pour se protéger, mais aussi pour faire en sorte que, vous savez, je commence le livre là-dessus, c'est une phrase qui est dure, donc je vais vous la lire comme ça, j'exorcise en même temps. C'est un jour, j'ai lu un livre dans une librairie qui commençait par cette phrase « Nous sommes de plus en plus nombreux à être fatigués d'être fatigués ». J'étais voilà, dans une librairie, j'ouvrais ce livre, et en plus je le dis pas dans le livre, parce que je connais l'auteur, il m'avait dit qu'il sortait un livre, et donc je l'ai vu à la librairie, hop, je l'ai lu, et je commence par ça, et paf, j'avais fermé le bouquin, j'avais reposé, et je m'étais enfui en disant « Je veux pas que cette phrase ne puisse m'atteindre », parce qu'en fait c'est ma plus grande peur, c'est ce moment où on aurait tous baissé les bras, on serait résignés. Et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qui se passerait après, quoi? Donc voilà, il y a un petit côté se préparer au pire pour s'il arrive, que ça dure un mandat plutôt que 30 ans, quoi. Voilà, et 30 ans, ça peut en plus encore être plus long. Donc ça, c'est à quoi il faut se préparer. Et puis comment on prépare la société à ce qui se prépare? Je pense que voilà, il faut continuer à réveiller les gens, mais comme on voit que c'est tellement dur en ce moment que chacun... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à détourner le regard et à s'occuper déjà de leur quotidien. Vous savez, c'est la pyramide de Maslow. En fait, quand t'es occupé chaque jour à savoir comment tu vas te nourrir, il y a quand même 42% des Français qui sont au SMIC ou moins. Donc, dans les personnes qui gagnent le SMIC ou moins, 42% d'entre elles se privent d'au moins un repas par jour pour des raisons financières. Et donc, vous ne pouvez pas demander... Il y en a qui le font quand même, mais c'est logique que quand tu es occupé à chercher à manger pour tes gamins et à savoir comment tu paieras ton loyer ou ta mutuelle le mois prochain, tu n'en sois pas à t'interroger beaucoup sur l'avenir, le tien peut-être, j'imagine, mais se préoccuper de tout l'avenir du pays, l'avenir mondial, en fait, il y a un moment où ton cerveau, il trie, quoi. Il y a trop de problèmes, trop de pression, trop d'angoisse, et donc j'ai un chapitre d'ailleurs là-dessus dans le livre sur le syndrome de l'autruche, vous savez, dont on parle beaucoup en écologie, mais qui est en fait valable pour les gens qui ont, par exemple, de gros découverts bancaires où à un moment, ton cerveau, tu ne vas même plus voir ton compte en banque tellement tu as peur de voir le résultat. Bon, bah voilà, ça, c'est des choses qu'on peut comprendre dans la psychologie humaine et qu'il faut pouvoir appréhender. Mais pour ne pas finir complètement désespéré, voilà, je voulais vous dire qu'il faut y croire, vous envoyer un grand message d'espoir, parce que ce qu'on a vu l'été dernier, c'est quand même la grande résilience du peuple de la gauche et des écologistes, et en plus, qui sait le faire de manière festive, de manière propulsive. Et voilà, c'est pour ça que je continuerai à me battre pour mes idées écologistes, pour le fait de réussir à organiser une grande primaire de la gauche et des écologistes et désigner un candidat, si ce n'est unique, au moins commun à la présidentielle, qui puisse aller défendre voilà, une bannière large de partis qui se mettent ensemble avec la société civile, etc. Et une candidature d'union. Je pense que ce mot d'union a encore beaucoup de sens pour beaucoup de gens à gauche et même, je pense, hein, notre seul espoir de pouvoir l'emporter. Et puis ne pas laisser tomber le terrain, celui des idées. Je vous parlais des territoires tout à l'heure. Bah, on peut pas dire, ah là là, le territoire, il vaut tous ses rênes et si on n'occupe pas le terrain. Moi, je sais, quand je vais en ruralité, soit parce que j'y habite et que j'y ai beaucoup de famille, soit parce que j'y suis à la rencontre des militants qui m'invitent en déplacement, on voit partout des affiches. Et c'est jamais les nôtres. Et donc, à un moment, si, quand tu passes à ta voiture, à chaque fois, tu vois les mêmes têtes, tu peux avoir la sensation, à juste titre, que ces gens-là se préoccupent de toi et pas les autres. Tu te dis pas, ah, bah, les écologistes sont en train d'économiser du papier, donc c'est pour ça, en fait, ils font pour la planète, et donc, ils affichent pas, mais ils pensent à moi. Donc, je pense qu'il faut vraiment occuper le terrain, celui des idées, celui de la mobilisation, faire attention à ne pas être une gauche qui parle de la gauche à la gauche toute la journée, mais bien de faire tout ça à destination des Français. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit plus garder à l'esprit aussi. Désolée, c'est très frustrant de faire ça en vidéo tard un samedi soir alors que je suis complètement buggée de la semaine que je viens de passer et que j'essaye de me mettre dans l'émission de demain, mais je ne me voyais pas refuser à Jacques, déjà que j'ai pas pu venir, de faire cette petite vidéo. J'aurais aimé faire beaucoup mieux, faire en présence, pouvoir échanger avec vous à la fin. Ce n'est que partie remise. Je vous souhaite une belle conclusion des rencontres de Cluny et je vous dis à très vite. Hop.
Bon. Quatrième intervenant de cette première partie, je ne sais pas si vous suivez le plan d'ensemble, hein. Quatrième intervenant de cette première partie où il y a trois questions. Jérôme Durin, le président de la région Bourgogne-Franche-Comté, le local de l'étape, et qui du coup va nous donner un autre point de vue de l'écologie, vu des territoires ruraux où l'écologie pose un certain nombre, est l'objet d'un certain nombre de tensions. Je vous passe la parole.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être votre invité ce matin lors de cette table ronde mixte, visio-présentielle avec Marcelin, Marine, Clémentine et vous toutes et tous. Je suis tout a été dit d'une certaine manière, donc je me retrouve dans beaucoup des éléments qui ont été avancés. Qu'est-ce qui se prépare? Je n'en sais rien, personne ne le sait. Et j'allais dire, ce qui se prépare à court terme, je m'en fous. Ce n'est pas le sujet, mais c'est quel est le chemin de long terme sur lequel on est engagé. Parce que de toute façon, la gestion politique, tactique des choix qu'on aura à faire, on la fera au moins mal de ce qu'on peut faire. En revanche, la transformation du monde sur les questions sociales, écologiques, qui nous détermine, c'est ça qui compte. Donc il faut qu'on soit le meilleur possible sur ce travail de fond. Moi, je suis un militant socialiste du 21 avril 2002. Je suis entré contre le Rassemblement national. C'est ça qui m'a poussé à entrer au PS. Si j'entrais en politique aujourd'hui, je le dis clairement, je ne sais pas où j'entrerais. Est-ce que ce serait dans l'une ou l'autre boutique politique qui sont les nôtres? En tout cas, je sais qu'il reste d'abord l'envie citoyenne d'être dans ce camp du progrès social, du progrès écologique, et qu'il n'y a que ça qui compte. Et que quand on se met en projection pour 2027, à titre personnel, je pourrais être enclin à ce que ce soit un candidat socialiste, mais à la fin des fins, c'est pas ça qui compte. Enfin, c'est comment on arrive à résister à la vague de fond qui nous accable. Moi, je pense que qu'est-ce qui se prépare, c'est le divorce ou la réconciliation. Le divorce, c'est celui qu'on observe avec la sécession des riches et la démission des pauvres. En gros, il y a une partie de la population qui n'est pas désaffiliée vis-à-vis de l'écologie. L'écologie, ils s'en foutent. C'est même pas le sujet. Ils sont désaffiliés vis-à-vis de la démocratie, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de la République. Ils sont désaffiliés parce qu'ils sont dans l'individualisme qui nous guide tous, peut-être ici moins qu'ailleurs, les réseaux sociaux qui nous égarent et une forme d'indifférence à autrui qui est devenue la règle. Donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup, et je salue Claire Mallard, qui est la présidente du groupe écologiste à la région, c'est qu'on gagne le combat très concret contre le Rassemblement national. Enfin, le trumpisme impose sa loi outre-Atlantique, Orban au centre de l'Europe... La droite et l'extrême droite ont la tentation de fusionner. Pourquoi ? Parce que le divorce, c'est celui de tous ceux, des classes populaires, c'est là-dessus qu'on devait débattre au départ, des classes populaires qui ne se sentent plus concernées par le cours du monde et qui se sentent abandonnées. Et moi, ça me ravage que, dans nos territoires ruraux notamment, des gens considèrent que le discours complètement délirant, cette espèce de nostalgie rance d'une France qui n'existe pas, soit un chemin d'avenir pour eux. Et donc le combat du Rassemblement national, je prends Claire à témoin au Conseil régional de Bourgogne, c'est contre les éoliennes, parce que ça défigure le paysage, contre l'art contemporain, parce que c'est une forme de dégénérescence, contre la politique de la ville parce qu'on donne de l'argent aux immigrés et contre les immigrés tout le temps, partout, sur toutes les politiques. Donc notre combat, c'est celui-là. Et qu'est-ce qui se prépare ? C'est la résistance. Alors la question, c'est celle de la réconciliation. La réconciliation, moi j'observe qu'elle existe politiquement entre nous. Moi, j'étais président d'une commission d'enquête comme sénateur jusqu'à la semaine dernière, où on a bien travaillé au Sénat avec les communistes et les écologistes. C'était la commission d'enquête sur le narcotrafic. Et on était unanimes. Et d'ailleurs, chacune des familles politiques a pris sa part dans ce travail. J'étais président d'intergroupe à la région. Je suis devenu président de région. Et où on travaille de manière très, très concrète avec les écologistes et les communistes. Et donc, si nous, on fait la réconciliation entre nous au plan politique, je pense qu'il y a un chemin pour qu'on la fasse avec les citoyens qui attendent ça. Marine disait à l'instant qu'elle avait eu de très bons retours sur la photo de famille. Évidemment qu'il y a une envie d'unité de la gauche, et quand on se respecte, quand on se parle, quand on cherche ensemble plutôt que quand on s'insulte, ça produit de l'adhésion. Donc notre travail, c'est celui-là. Qu'est-ce qui se prépare? On verra en 2027, on verra la semaine prochaine, mais le chemin, c'est celui-là.
Merci Jérôme Durin. Alors du coup, vous avez fait concis.
Je crois qu'il faut qu'on soit meilleur ensemble et meilleur sur le concret. Je pensais, on a besoin de radicalité, mais ça ne suffit pas. On a besoin aussi de réponses concrètes. Et on est parfois quand même dans les généralités quand on est militant. Et je pense que comme élu, on a besoin de répondre à des questions très, très concrètes. Là encore, je prends mes collègues conseillers régionaux à témoin. Comment on achète un ticket pour prendre le bus ou le train? Comment on fait rentrer des produits issus de l'agriculture locale ou biologique dans la restauration scolaire? Enfin, c'est ces questions-là auxquelles il faut qu'on réponde. Et je pense très sincèrement que dans nos territoires ruraux, on souffre. Ça a été dit par Marine, ça avait été dit par Glucksmann dans son bouquin. Un type qui habite à Paris, il ressemble plus à celui qui est à New York, à Londres ou dans une autre grande métropole qu'à un habitant de Cluny. Alors Cluny, c'est peut-être pas complètement vrai, mais Chauffailles, Châtillon-sur-Seine ou Lure en Haute-Saône, et que il y a quand même une séparation du monde entre ceux qui sont entrés dans la métropolisation et dans la mondialisation et la métropolisation et les autres. Et ça, ça existe fortement. Et le sentiment de déclassement social, culturel des gens qui sont dans le territoire, il est réel. Les codes ne sont pas les mêmes. C'est un sujet de rémunération, de revenus aussi. Enfin, ce clivage-là, il existe très profondément. J'ai fait une formation avec le Sénat par l'École des Mines il y a quelques années. C'était sur la disruption technologique, où se créent les technologies d'avenir. J'étais qu'avec des gens qui gagnaient plus de 7000 balles par mois, qui parlaient tous anglais, qui étaient tout le temps dans les avions, qui avaient tous des 4 sub, ils étaient tous dans les métropoles. Et moi, je leur ai dit... Je suis le sénateur d'une région où on produit du vin, mais il ne faut plus en boire, de la viande, mais il ne faut plus en bouffer, et du nucléaire, c'est mal. Voilà. Donc, la réalité quand même, c'est qu'on n'est pas complètement dans le même monde. Et je vais foutre la merde jusqu'au bout. Sur un sujet comme celui du loup, par exemple, qui est extrêmement intéressant, extrêmement complexe, il y a une confrontation directe entre des aspirations à la biodiversité qui sont celles d'un monde urbain où on trouve ça formidable, et des éleveurs qui voient leurs bêtes bouffées, qui ne dorment plus, qui sont complètement malades. Et c'est un sujet éminemment compliqué, mais très intéressant, et qui ne se réduit pas à quelques formules simples, quoi. Et je pense que c'est des sujets qui sont devant nous, et quand on est là-dessus, quand on voit les uns et les autres, on se dit qu'il y a quand même un fossé culturel que nous avons à combler. Donc notre principal boulot, c'est ça, c'est de recoudre, c'est de retisser, c'est de rapprocher, et c'est de faire en sorte que, je termine là-dessus, que sur quelques sujets concrets, quand on demande, j'ai vu un maire dans la salle, quand on, il y en a plusieurs, mais hein, que je connais, quand on demande à un élu de travailler à la rénovation thermique de ses bâtiments, comment on fait pour que ce soit exigeant mais pas technocratique? Que ce soit comment dire, politiquement fort, mais qu'on ne soit pas dans une injonction qui fait qu'à la fin, on a de l'évitement. Parce que le sujet, ce n'est pas tellement que les gens le fassent à regret, en disant c'est trop compliqué, c'est qu'ils ne le fassent pas. Et parfois, je plaide pour ma boutique, nos injonctions à la transformation concrète des choses, elles amènent à des impasses. Donc il faut qu'on soit accessible, qu'on parle aux gens, qu'on n'oublie jamais que, quand on est élu, les électeurs sont nos patrons, ce sont nos employeurs, et donc on ne va pas leur expliquer d'en haut comment il faut faire, mais il faut se mettre à leur niveau, à hauteur de leurs usages, de leurs besoins, de leurs demandes, et essayer de s'y adapter, et pas l'inverse. Et je pense que si on opère cette transformation, alors on fera du bon boulot.
Merci Jérôme Durin, c'était très intéressant d'avoir ce contre-champ avec ce point de vue des campagnes, des territoires, des terroirs. On a eu les Outre-mer, on a peut-être eu avec les deux leaders qu'on a écoutés une écologie plus urbaine, mais je pense que tout le monde en a envie de travailler ensemble, et c'est vraiment c'était l'objet de ces rencontres et c'est l'objet de la discussion. Alors on va passer donc au deuxième temps de cette matinée. Donc je passe la parole à Annie Le Fur. Voici le micro et moi je vous passe la parole.
On va vous distribuer des petits papiers et on va vous demander de vous mettre à discuter avec vos voisins et d'écrire une idée sur ce papier qui serait quelque chose que vous avez retenu de ces journées et qui peut nous aider, justement, qui peut aider l'écologie, enfin, qui peut nous aider à rebâtir ce contrat écologique et social. Donc, une chose qu'on peut faire, là, dans les prochains mois, ou dans les prochaines semaines, ou dans l'année qui vient.
Vers les autres, que vous fassiez des groupes de 5, 6, 8, 6, une rangée, deux rangées ensemble pour discuter. Je ne pense pas que ça va être trop.
Est-ce que vous voulez bien venir avec les journalistes ?
Bien sûr, bien sûr.
4, 8. Voilà, organisez-vous par en groupe de 4 ou 8, vous avez 9 minutes.
En fait,
je suis pas sûr que...
Donc, on rentre dans le troisième temps. On aura un temps avec la salle qui va poser des questions et qui va aussi s'exprimer, en commençant notamment par le groupe d'AgroParisTech qui, d'après ce qu'on me dit, a préparé une intervention.
Envahissez la scène, les jeunes, envahissez la scène.
À main levée comme ça, il y a qui a déjà entendu parler de l'association Banlieue Climat ? Ok. Pour que tout le monde ait un peu de contexte, nous, ce qu'on fait avec Banlieue Climat, c'est qu'on s'est dit qu'il y a un problème sur les questions écologiques. Dans les quartiers, on ne vient pas vraiment nous parler de climat. On vient nous apprendre à trier nos déchets, on nous apprend, enfin, quand on est petit, on nous dit « ouais, venez, on va planter un arbre ». Mais on ne nous explique pas concrètement qu'est-ce qui se passe. On ne nous explique pas concrètement pourquoi est-ce qu'on doit préserver la planète. Concrètement, quelles sont les conséquences du changement climatique. Concrètement, quel est l'impact quand derrière on trie nos déchets. On ne nous prenait pas vraiment au sérieux sur ces questions-là et on venait souvent nous voir avec un ton assez moralisateur. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et on s'est dit, ok, nous c'est terminé. On sait que dans les quartiers aujourd'hui, on est impacté par ces questions-là parce que souvent dans les quartiers, on se dit qu'on a besoin de s'en sortir. On vit dans des milieux qui sont assez pauvres et très jeunes, on se dit que on a besoin de faire de l'argent. C'est une de nos problématiques. Mais on nous a toujours séparé le fait de faire de l'argent et le fait de préserver la planète. Parce que c'est tout bête, mais géographiquement, par exemple, c'est un exemple dont je parlais hier. Moi, dans ma ville, pendant longtemps, il n'y avait pas de Vélib. Il n'y avait pas de Vélib. Et dans mon appartement, je peux vous dire que le vélo, il ne rentre pas, même si j'arrive à le ranger dans mon balcon, dans l'ascenseur et dans les escaliers, c'est un peu compliqué. Donc, faire du vélo, c'est compliqué. Tu veux manger bio ? Naturalia et Biocop, nous anti-gaspi, je peux vous jurer que autour de chez moi, à pied, il n'y en a pas. Je suis obligée de monter à Paris. Et tu vois qu'en fait, géographiquement, les choses, elles sont un peu faites pour t'éloigner de ça. Et toi, quand tu fais des gestes pour la planète, à aucun moment on te dit que c'est un geste écolo. Par exemple, quand tu vas acheter des vêtements à Emmaüs, tu fais ça parce que finalement, tu n'as pas de sous. Tu n'as pas d'argent. Donc tu vas acheter de la seconde main. Alors qu'aujourd'hui, acheter en friperie, c'est devenu un truc de fashion. C'est un peu à la mode, vous voyez. Mais en fait, l'idée, c'est comment est-ce qu'on fait pour allier la fin du monde et la fin du mois ? Comment est-ce qu'on explique aux gens que faire des économies, c'est un geste pour la planète indirectement ? Mais aussi, pour reprendre ce que je vous disais au début, comment est-ce qu'on nous prend, nous, jeunes de quartier, au sérieux ? Et comment est-ce qu'on devient expert sur ces questions-là ? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est venu ici, c'est qu'on essaye d'en apprendre plus. On apprend des personnes qui ont beaucoup travaillé sur ces questions-là, comment est-ce qu'on fait pour vraiment devenir expert sur les questions écologiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est formateur dans l'association et on essaye de former d'autres jeunes. Je vais passer la parole à Abderrahmane et Mansour qui vont un peu vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont devenus formateurs, comment est-ce que ça s'est passé pour eux.
Bonjour. Moi, c'est Djalo Abderrahmane. J'essaie d'être bref.
sur ce pourquoi j'ai intrigué banlieue climat. C'est tout bête. Un samedi matin, pendant les grandes vacances, je suis en train de dormir. Enfin, c'est les vacances. On m'appelle. C'est un grand chez moi, il m'appelle, il me dit, viens, on va faire quelque chose. Moi, je lui réponds, non, j'ai pas envie, je dors. C'est logique. Mais après, je sais pas s'il y en a qui m'ont grandi dans des quartiers. Il y en a pas. C'est vrai. Mais du coup, il y a une hiérarchie, on va dire. Un grand, il dit de faire quelque chose. Si tu le fais pas, il t'attrape, t'es mort. Donc, je suis parti. Et là, j'arrive. Samedi matin, grandes vacances, 9h. Je vois Soumeya, me dit, on va parler de l'écologie. Excusez-moi du terme. Samedi matin, grandes vacances, qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'écologie? Du coup, je suis, parce que je suis forcé, je suis, et je vois que ça m'intéresse, et je m'aperçois que ça nous concerne. Mais vraiment, quand, par exemple, si j'aurais pas fait la formation, à l'heure d'aujourd'hui, on parlerait d'écologie, aucun lien, moi, j'ai la vérité. Du coup, j'ai suivi, ça m'a intéressé. Carrément, je suis parti en séjour avec eux, la formation de 8 heures qu'ils nous ont faite, je l'ai refaite, pour au final devenir formateur. Et regardez maintenant où j'en suis, je suis venu jusqu'ici.
Alors, pour revenir sur ces mots, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, venant de quartiers populaires, on n'est vraiment pas impactés et vraiment pas concernés par le climat, alors que de base, on est les premiers concernés, mais on nous en parle pas. Et le fait que ce soit des jeunes comme nous, qui ont les mêmes problèmes que nous, qui viennent des mêmes quartiers que nous, et qui peuvent nous comprendre, nous parlent du climat et de l'environnement, et bah, ça nous pousse un peu plus à l'écoute. Et franchement, c'est plus facile à comprendre, etc., parce qu'on sait qu'on a les mêmes problèmes qu'eux. Et pour revenir sur mon parcours banlieue climat, moi, au début, c'était un peu plus compliqué qu'Abderrahmane, parce que moi, on m'avait demandé de venir, mais j'ai toujours refusé. J'ai refusé beaucoup de fois, et un jour, j'y suis allé, et j'ai compris les problèmes climatiques qui nous entourent, et je me suis dit que je voulais devenir formateur, parce que même si Abderrahmane, il me représente étant de quartier populaire, et bah, on a peut-être des avis contradictoires et des avis différents. Du coup, je voulais moi aussi prendre la parole et m'exprimer sur ce sujet-là.
Du coup, moi, je vais juste présenter le master, enfin la classe qu'on est aujourd'hui. Et on est venu, du coup, pour les. Enfin, on est arrivé jeudi en fin de journée. Et on repart ce midi. On est bien fatigué, je pense. Du coup, on est en master à AgroParisTech, donc sur le plateau de Saclay, le magnifique plateau de Saclay, pour ceux qui connaissent. On a une classe de 20 élèves qui venant plutôt d'une formation en sciences politiques de base, et on a décidé de rejoindre une formation plutôt axée sur les sciences de la vie et de la terre aussi, pour un peu essayer de mieux comprendre les enjeux écologiques aujourd'hui et de repenser qu'est-ce que sera l'écologie de demain, comment on peut la faire. Voilà, le master, il s'appelle Gouvernance des transitions, écologie et société. Et pour vous donner un peu les mots-clés de ce qu'on aborde dans cette formation. Et du coup, on est venu pour ces 3 jours assister à des ateliers, mais aussi animer une conférence qui abordait les rapports aux droits des militants écologistes. On a aussi pu faire un podcast. On a fait plein de choses, c'était super chouette. On voulait remercier les organisateurs des rencontres de l'écologie de nous avoir accueillis. Et voilà, je pense qu'on pourrait parler longtemps de toutes les choses qu'on a apprises dans ces conférences. Mais aujourd'hui, du coup, dans cette prise de parole assez courte et pas prévue, on a plutôt décidé de vous parler des points d'amélioration qu'on a pu laisser émerger au fil des journées, en rediscutant avec nous, entre nous, après les conférences, le soir, etc. Enfin, on a beaucoup discuté de ce qu'on a vécu, des gens qu'on a rencontrés, et forcément, il y a des choses qui ont émergé, des manques qu'on a trouvés, certaines critiques, certaines limites, et on pensait que c'était important de vous en faire part ce soir pour essayer d'améliorer aussi les rencontres de l'écologie.
Alors bonjour à tous, alors je vais être un petit peu moins scolaire, moi déjà je suis un scientifique de formation, alors je vais faire ce que les scientifiques font de mieux, c'est-à-dire dire ce qui va pas sans forcément donner de solution. Premier constat, et c'est pas forcément à Cluny, mais je trouve que c'est assez représentatif de ce qui se passe, c'est que dans le débat public, quand on parle d'écologie et des problématiques écologiques, je trouve qu'on parle dans l'écrasante majorité des cas du changement climatique. Mais du coup, le centre du débat public en écologie, et on montre de la science une seule chose, c'est le carbone, le changement climatique, quitte à oublier un problème majeur qui est l'effondrement de la biodiversité. Et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, même à Cluny ici, même au sein de personnes concernées par l'écologie. Et pour avoir été dans beaucoup de laboratoires scientifiques, bizarrement, c'est l'inverse dans les labos. On parle beaucoup plus d'effondrement de biodiversité au final que de changement climatique, qui est une problématique qu'on connaît déjà de long, large et en travers. Donc c'est un premier point négatif à faire ressortir, à la fois pour Cluny et à la fois pour le débat public. Je vais laisser ma collègue Noah vous continuer à vous sermonner sur qu'est-ce qui ne va pas dans ces rencontres. Merci à tous.
Bonjour. Donc moi, je vais faire une remarque et une remarque un peu plus positive, des choses qu'on a appris ensemble hier soir. Une autre cause grande absente de Cluny, en tout cas, ce qui a ressorti de nos réflexions, c'est les femmes. On a fait un podcast sur l'écoféminisme, mais en fait, c'était une des seules conférences qui parlait de féminisme. Et on le sait, on a besoin de convergence de lutte, on a besoin de parler de tout le monde, sachant que les femmes sont aussi très impactées par la crise climatique et écologique. On parle de plus d'inclusivité, de diversité, mais c'est vrai que parler de ces sujets-là, ça pourrait être un point d'amélioration. Et une des choses qu'on a apprises hier, donc hier on a pu se rencontrer avec Banlieue Climat à 23h, c'était pas forcément, on était un peu fatigués, mais on s'est rendu compte qu'en fait l'écologie, on était tous touchés par cette cause, mais qu'on avait différentes manières de l'aborder, et qu'en fait quand on crée des moments où on pouvait se rencontrer, en parler ensemble, sortir de nos bulles respectives, il y avait vraiment des réflexions qui émergeaient. Donc, monsieur le député, vous avez parlé de l'union de la gauche, mais en fait, c'est même au-delà de ça, c'est l'union de gens qui ne se parlent pas. Il y avait aussi des... Il y avait aussi des lycéens de Cluny qui nous ont parlé aussi de leurs difficultés dans les zones rurales. Et en fait, on s'est dit, on est tous concernés, on a tous les mêmes préoccupations, on a tous les mêmes angoisses, mais on a tous des manières différentes d'aborder le problème, que ça vienne de nous, de nos études parisiennes, les jeunes de Banlieue Climat qui ont une approche beaucoup plus horizontale et beaucoup plus participative finalement de l'écologie, et à côté les enfants de paysans qui nous ont dit que eux c'était difficile aussi de faire entendre leur voix. Donc je pense que l'idée principale, vous pouvez compléter, c'est d'arriver à créer des zones où on se parle, et ça prend du temps, ça prend de l'argent, on n'a pas forcément les moyens, donc mettre de l'argent et des moyens dans ça, ça pourrait être une amélioration possible. Merci beaucoup.
Je vais essayer d'être brève, mais du coup, pour compléter encore, on s'est dit que ce serait peut-être aussi, je ne sais pas si c'est du coup dans l'ADN des rencontres de l'écologie, mais repenser aussi les formats qui sont quand même... Enfin, on a remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de participation du public sur les questions, etc., mais ça, c'est toujours aussi questionnable de qui prend la parole, qui ose prendre la parole, faire des choses plus horizontales, d'autres formats d'ateliers que juste aussi des experts qui parlent à des personnes qui viennent découvrir des sujets, donc faire venir les enfants, faire venir les jeunes, faire des moments festifs, je ne sais pas, plein d'autres choses qui peuvent aussi sensibiliser les gens à l'écologie d'une autre manière et créer aussi de la pensée. En fait, la pensée, je pense que ça peut se créer aussi autrement que juste dans des amphithéâtres. Donc voilà, c'est peut-être repenser le format, repenser les modes d'accès, parce que voilà, nous, on est... du coup, en tout, une trentaine de jeunes, on n'est pas beaucoup et on a fait 5 heures de bus pour venir. Donc voilà, Cluny, c'est un super chouette endroit, mais encore une fois, c'est difficile d'y accéder. Donc comment faire venir d'autres personnes que vous, cher public, très concrètement. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui ont d'autres choses à rajouter sur ce qu'on a dit.
Donc moi, je vais juste rajouter une petite phrase qu'on étudie à la formation pour le climat. C'est une phrase d'un rappeur qui s'appelle Zamdan, qui dit qu'on a connu que l'éclosion. On a connu que le béton, pardon. Comment veux-tu qu'on connaisse l'éclosion ? Et en fait, c'est une phrase qui, quand on l'étudie dans la formation, ça fait vraiment émerger beaucoup de choses chez les jeunes banlieusards, parce qu'on est vraiment éloigné de la nature. Et donc, c'est comme elle parlait, par exemple, elle parlait de biodiversité. Et ben, nous, dans les banlieues, dans les quartiers, on n'en a pas. On n'a que du béton, on a tout qui est vraiment barricadé. On a cette barrière-là avec la nature. Et l'objectif vraiment de Banlieue Climat, c'est vraiment de permettre aux jeunes de se sentir légitimes, de parler de tout ça, et tout simplement de... Ben, par exemple, là, on est 6 jeunes, et on s'est permis de venir ici aujourd'hui à Cluny pour participer à ces tables rondes. Donc on n'a pas été intervenant et on espère un jour qu'il y en aura parmi nous qui auront ce niveau-là. Mais en tout cas, juste le fait d'être présent ici parmi vous et de s'asseoir avec vous pour écouter toutes ces conférences et s'enrichir de ces sujets-là, je pense que c'est déjà un grand pas et voilà.
Merci. On va dire que c'est des perspectives pour les années à venir et que vous n'avez pas besoin d'être au niveau pour parler dans les conférences. Merci. Allez, vous sortez maintenant, s'il vous plaît.
Voilà, Aurélie va nous lire la synthèse et c'est même écrit, c'est ça ?
Oui, vous allez les voir écrites voilà. En plus, normalement, parce que je ne les ai pas apprises par cœur. Voilà nos propositions. J'espère que vous allez vous y retrouver. Ouvrir des espaces de dialogue, de coopération, d'alliance, aller vers les autres, notamment vers les plus jeunes, c'est ce qu'on vient de faire, s'écouter, recueillir les paroles sous la forme de débats citoyens, de cafés, de cahiers de doléances, etc. Il y avait plein d'autres propositions. Partir des réalités des territoires et des professions, du local et du concret. Rendre l'écologie attractive, joyeuse, désirable, empathique, avec une énergie positive pour rassembler. On a bien entendu tous ces messages, notamment ce matin. Résister à l'extrême droite et leurs médias, par exemple en créant d'autres espaces médiatiques. Faire l'union de la gauche et des écologistes, on a résumé, mais quand même c'est beaucoup, beaucoup remonté. Et comme le disait notre cher crieur, cette notion de robustesse évoquée hier par Olivier Hamon, plutôt que le progrès. Bravo à tous, merci. On veut remercier toute notre équipe de bénévoles qui s'est attelée pendant 3 jours à bien vous accueillir. On remercie aussi Mireille du CCIC qui vous a super bien accueilli aussi à l'accueil là-bas. Merci Mireille. Et merci aussi à cette vénérable institution qu'est l'ENSAM de nous avoir accueillis dans ses locaux. Quand même. L'équipe technique du Phare et Vincent Meurice qui a assuré pendant ces 3 jours pour retransmettre, s'adapter aussi. Et merci beaucoup à vous, chers intervenants. Merci Eric pour cette animation.
Merci à tous. À l'année prochaine.